La fête des pères. J'essayais de penser à l'anecdote la plus drôle, à ma plus grosse défaillance en tant que père. quand j'étais papa, quand on avait les enfants à la maison. Ce qui est venu à l'esprit, c'est un jour d'été chaud. Un peu dans ce temps-ci de l'année, puis certains connaissent l'histoire, là, mais Lorraine et moi, on avait décidé, c'était une longue fin de semaine, je pense que c'est la Saint-Jean, hein, c'est ça, c'est la Saint-Jean. Puis on a décidé qu'on allait faire du camping à Pointe-Taillon avec la famille. Nos enfants avaient 6, 4 et 1 an, je pense. En tout cas, fait qu'on arrive au parc de la Pointe-Taillon, il fait beau, il faisait comme 29 degrés, beau soleil. Hein, tu te rappelles de l'histoire, hein? Puis on s'installe sur la plage, puis on soupe sur la plage. J'avais monté la tente et dans le petit boisé en arrière, puis on n'avait même pas mis les cordages. D'habitude, je suis très... Scout, là, je mets les cordages, puis j'attache comme il faut. C'est tellement beau, même pas les cordages. Là, on est en train de souper, Lorraine a dit, il va pleuvoir. Es-tu malade? Regarde le ciel, il est beau, mais regarde là-bas, il y a des nuages, là. Puis comme de fait, comme 5 minutes plus tard, c'est comme si quelqu'un avait mis un switch on, là. Il s'est mis à vanter, là, tout d'un coup. Et vanter vraiment très fort. Et là, les vagues, ça commence à monter sur le lac, puis les choses commencent à revoler. Fait que là, je dis à Lorraine, va amener les enfants dans la tente, puis moi, je vais ramasser. Je courais après les affaires sur la plage, tu sais, les casseroles revolaient, tout ça. J'arrive dans la tente, la tente est en train de partir au vent aussi. Fait que il se met à pleuvoir, à tonner, tout ça, puis... c'était pas un succès. On a dormi dans la tente, l'eau rentrait, puis le matelas dégonflait. Fait que le matin, là, t'es comme, tu tournes, puis, tu sais, ça balloune là, tu tournes là, ça balloune là. Puis, t'es inconfortable, mouillé, puis tu dis, ouais, je pense qu'on fera pas la fin de semaine, on empaque tout ça, puis on rentre chez nous. Mais, soit dit en passant, quand je suis arrivé dans la tente, Émilie, notre fille de 4 ans à ce moment-là, 4 ou 5 ans, a dit, papa, a dit, les gens sur le lac, et ça doit être dangereux, hein? J'ai dit, c'est très dangereux pour les gens sur le lac. Elle dit, on devrait prier pour les gens sur le lac. Fait que, je dis, wow. Si oui, papa, on va prier pour les gens sur le lac. Puis j'ai prié pour les gens sur le lac, que le Seigneur les protège. Puis qu'ils réalisent que c'est Dieu qui les avait protégés, puis qu'ils veulent savoir, ils veulent connaître ce Dieu-là. Alors, je n'avais pas l'intention de compter ça ce matin, mais vu que là, on est dans l'histoire, hein, il faut bien que je finisse l'histoire. Fait que, un an plus tard, arrive Lise, un an plus tard, oui, c'est ça, notre sœur Lise, qui est là ce matin, a donné son témoignage, puis elle voulait se faire baptiser. Puis là, elle dit, on était sur le lac, hein?
En 97.
En 97, OK, fait qu'Amélie avait 6 ans, d'accord. 97, on était sur le lac, puis il faisait beau, chaud, et puis tout d'un coup, le vent se lève. Et tout d'un coup, les vagues commencent à grossir. Puis elle dit, je regardais Alain qui essayait de garder le bateau là, face aux vagues, puis il était blanc, je ne l'ai jamais vu comme ça. Hein? Puis elle dit, là, on avait vraiment peur. Et elle dit, puis de peine et de misère, Alain il a réussi à sortir du lac puis à monter la rivière à Chouapmouchouane. Puis elle dit, en mettant le pied sur le quai, hein, c'est ça, Lise? Elle dit, j'ai eu la forte impression que Dieu nous avait protégés, puis je voulais connaître ce Dieu-là. Puis là, elle s'est mise à lire la Bible, puis elle a connu le Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu, hein? Wow! La puissance de la prière et ce que les enfants peuvent nous enseigner, hein? On va parler un petit peu des enfants ce matin, puis comment Jésus accueille les enfants. Alors, on est dans la série de l'Église, la famille de Dieu. Voici notre verset thème, disons-le ensemble. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Amen! Wow! T'es-tu content d'être membre de la famille de Dieu ce matin? Wow! Résumé, est-ce qu'on a vu dans la première section rapidement, là, l'Église est une famille dont Dieu est le Père, dont Dieu le Père en est le fondement. Il faut être adopté par Dieu pour en faire partie. On ne vient pas au monde en tant qu'enfant de Dieu. C'est à travers la repentance envers lui et la foi en Jésus-Christ qui est venu nous réconcilier par sa mort à la croix avec Jésus. Et chacun de nous doit faire ce pas-là personnellement. Enfant adopté, on change de catégorie, on n'est plus esclave au principe de la loi. Fais ceci, fais cela. Tu jouis d'une nouvelle identité, une nouvelle liberté, une nouvelle intimité et un héritage auprès de Dieu, ton Père. Il te donne en plus son esprit qui te permet de le servir par amour comme un enfant qui désire ressembler à son papa. Fait que tout ça, on l'a vu, c'est dans la première section. Puis là, on est dans la deuxième section, vous vous rappelez comment vivent les relations dans cette famille-là. On arrive dans cette famille-là. Quels sont les désirs du père pour sa famille? Comment est-ce que ça marche dans cette famille-là? Imaginez que vous êtes adopté dans un pays étranger, dans une famille que vous ne connaissez pas. Imaginez là, que vous arrivez dans cette famille-là et tout est nouveau. Tout est différent. Peut-être que tu n'as pas connu de famille ou peut-être que tu as connu une famille dysfonctionnelle. C'est comme nous, chacun de nous, là. On arrive dans la famille de Dieu, puis on arrive dans une famille qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à vivre dans cette famille-là. Comment on vit dans cette famille-là? On vit comme on veut? On fait comme on veut? On fait qu'est-ce qu'on a vu ailleurs? Non. On fait comme le Père veut. On fait comme Jésus nous montre. Puis, c'est très clair qu'est-ce que Dieu veut. C'est très clair ce que Jésus veut. Fait qu'on est en train d'étudier ça. Puis, ce matin, le Saint-Esprit me met à cœur d'approfondir encore. On a déjà vu l'accueil. Je vais résumer ce qu'on a vu à date, là. Mais on a déjà vu l'accueil, mais je vais approfondir certains éléments de cet accueil-là. Paul nous dit dans Romains 15, 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Wow! Quel beau verset! « Tout comme le Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Puis, la dernière fois qu'on avait regardé ça, on avait regardé trois passages. Premier passage, Jésus mange avec les collecteurs d'impôts, les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens sont après se tirer les cheveux, les leaders religieux. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il mange avec du mauvais monde, avec des traîtres, des gens qui sont prêts à trahir leur peuple pour les Romains qui nous envahissent, qui nous dominent, qui nous maltraitent. Dans Marc 5, 1 à 15, Jésus accueille l'homme démoniaque, hein, et l'homme démoniaque qui court aux pieds de Jésus. Puis je pense que si j'étais un disciple, j'aurais eu envie de rembarquer dans la barque. J'aurais pas eu envie, en voyant ce gars-là arriver, là. Je pense que j'aurais eu plutôt envie de l'autoprotection, hein, ça embarque, là, veut pas. Mais non, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il l'accueille. Wow! Le démoniaque. Puis, dans Marc 10, Jésus est en train de faire le ministère. Il y a des parents qui veulent qu'ils bénissent leurs enfants. Les apôtres, bien, on sait que vous faites là. Jésus est trop, bien trop occupé pour ça. Dérangez-nous pas avec vos pacatilles. Jésus, il n'a pas le temps pour ça. Hey, Jésus dit, hey, les gars, là, tassez-vous. Laissez les petits-enfants venir à moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les prend sur les genoux. Il les bénit. On a vu que dans ces trois passages-là, qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus regarde à l'extérieur de la personne? Est-ce que Jésus regarde au comportement de la personne? Est-ce que Jésus regarde à son apparence, à la réputation de la personne? Est-ce que Jésus regarde à son statut social? Non. Qu'est-ce que Jésus regarde? Il regarde au cœur, hein? C'est ça? Vous vous rappelez de ça? Regarde au cœur. Il y a deux mots grecs qui se traduisent par accueillir. Il y en a un qui signifie accueillir physiquement, comme accueillir, recevoir quelqu'un chez vous. OK? Je vous reçois chez vous, je vous accueille chez vous. Ça, c'est l'hospitalité, si on peut dire. Il y a un autre mot qui simplement veut dire prendre. Prendre. Accueillir. C'est beau, hein? Prendre. Je te prends. Je t'accueille. Je te prends dans mon intimité. Je te prends avec moi. Je te reçois à bras ouverts. Puis, les pharisiens n'étaient pas capables de faire ça. Les leaders religieux n'étaient pas capables de faire ça. Il y avait un mur. Ils voyaient que des gens immoraux, des escrocs chez les collecteurs d'impôts. Ils voyaient le démoniaque comme un homme violent, dangereux, pas d'espoir. Ils voyaient des enfants comme insignifiants, méprisables, sans statut. Mais là où ce que Jésus arrive, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit chez les gens immoraux, escrocs, des gens rejetés, des gens blessés. Des gens qui, oui, font des choses pas correctes, mais ils voient leur valeur. Et ils les voient comme étant des créatures précieuses de Dieu. Le démoniaque, comment Jésus le voit, son cœur? Enchaîné, esclave, isolé, misérable. Et les enfants, des gens sans statut, des gens insignifiants, pas importants, comment Jésus les voit? Comme des gens précieux. Les enfants, les femmes aussi, Jésus recevait les femmes précieusement. Puis, après ça, on a vu aussi que dans la famille de Dieu, Jésus, il considère que la façon dont je traite mon frère, ma sœur, ben c'est la façon dont je le traite, lui. Il dit en effet dans Matthieu 10, 40, « Si quelqu'un vous accueille, il dit à ses disciples, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Aussi, dans Matthieu 25, Jésus raconte qu'à la fin des temps, le Fils de Dieu va être assis sur son trône et toutes les nations vont être devant lui, il va juger. Hein? Vous vous rappelez? Puis il va séparer les brebis d'avec les boucs. Puis il va dire aux brebis, « Béni êtes-vous parce que j'étais en prison, vous êtes venus me visiter, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, etc. » Bien, ils vont dire, « Quand est-ce qu'on a fait ça? » À chaque fois que vous avez fait ça, un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis les autres, ils vont dire, « Retirez-vous de moi, là. » Comment? Bien, j'étais nu, j'avais faim. Et Jésus, il leur dit, « Écoutez, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Oh! Fait que, écoutez bien ça, la façon qu'on se traite, pourquoi c'est important dans la famille de Dieu? Pourquoi la façon qu'on se traite, ça serait important? Parce que c'est la façon qu'on traite Jésus. Ça met une autre perspective, hein? Quand je manque de patience envers toi, là, c'est envers Jésus que je suis en train de manquer de patience. Quand je suis en colère contre toi, là, c'est envers Jésus que je suis en colère. Si je ne t'accueille pas, si je ne t'écoute pas, si je suis en train de faire ça à Jésus. Donc, l'accueil, ça commence où, l'accueil? Hein? Ça commence où, l'accueil? Ça commence dans le cœur. Hein? Ça commence dans le cœur. C'est une attitude de cœur. Par une attitude d'ouverture à recevoir une personne, à lui ouvrir ses bras, son cœur, son foyer. Jésus, là, il n'y avait même pas de chez soi, OK? Il ne pouvait pas recevoir les gens chez lui. Mais c'était l'homme le plus accueillant sur la terre. Pas vrai? Les gens se sentaient chez eux avec Jésus. Est-ce que les gens se sentent chez eux avec toi, en ta présence? C'est une question de cœur. Pas vrai? Puis j'ai une petite question pour vous. À quel point la famille de Dieu ici à Saint-Félicien reflète l'accueil de Jésus? À quel point on reflète le cœur de Jésus? À quoi ressemblerait vraiment notre Église si on devenait accueillant comme Jésus? Comment progresser dans ce domaine, vous pensez? Comment y arriver? Bien, heureusement, ça va être le sujet de notre enseignement ce matin. Donc, je vous invite à tourner dans Romains, chapitre 15, et on va lire quelques versets là. Romains 15, verset 1. OK. Paul nous dit, « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi, en vue de l'édification, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture a été pour notre instruction, pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de notre Sauveur, Seigneur Jésus, on veut élever vers toi nos âmes ce matin, Père. On veut t'adorer. Entrer dans ta présence glorieuse pour t'exalter, pour reconnaître qui tu es, le souverain de l'univers, créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toutes les lois invisibles qui régissent la nature. Père, en ce jour où ce qu'on fête les pères, on veut te fêter toi en premier. Et tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître, Père. Illumine les yeux de notre cœur, éclaire notre intelligence. On t'invite, Saint-Esprit, à souffler sur nous ce matin, à purifier tout ce qui ne vient pas de Jésus. Oui, frayez le chemin devant le roi de gloire. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel puissant dans les combats, il est le roi de gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ce matin. Amen. Donc, voici la phrase sommaire ce matin. Pour devenir un enfant de Dieu accueillant, il faut d'abord expérimenter l'accueil du Christ, ensuite écarter sa propre satisfaction et finalement espérer dans le soutien et le réconfort de ton Père céleste. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. De quelle façon Christ t'a accueilli? Quand tu étais beau, propre, bien intentionné à son égard? Non, la Bible déclare que c'est lorsque tu étais pécheur et ennemi de Dieu que Christ est mort pour toi. As-tu réellement un jour reconnu que tu étais coupable devant Dieu, digne de son jugement éternel, ennemi, son ennemi? Ou si tu dis, ben moi, j'ai toujours été une bonne personne, j'ai jamais fait du mal à personne. Alors, je peux comprendre que tu n'as jamais vraiment expérimenté l'accueil de Dieu pour toi, parce que Jésus il est venu donner sa vie pour les pécheurs, pour les ennemis, pour les gens qui sont perdus. Donc, il faut d'abord se reconnaître perdu, d'abord se reconnaître comme digne du jugement de Dieu. Ce n'est pas des choses populaires à dire, mais c'est vrai. La Bible dit qu'il n'y en a pas un juste, pas même un seul. Donc, si tu n'as jamais réellement expérimenté le pardon et l'accueil de Dieu, comment peux-tu offrir cet accueil-là? Parce que tu ne l'as pas expérimenté. Il faut d'abord l'expérimenter. La Bible dit aussi que tu étais une brebis errante, perdue, mais que le berger a tout laissé pour aller à ta recherche, et lorsqu'il t'a retrouvé, il s'est réjoui, il t'a mis sur ses épaules pour te ramener à la maison. As-tu vécu ça? As-tu expérimenté ça? La Bible dit aussi que c'est lorsque tu étais fatigué, chargé, accablé, ployant sous le poids d'un lourd fardeau, que Jésus est venu t'inviter, « Viens à moi. » Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, accablé sur le poids d'un lourd fardeau, esclave. Et le Christ t'a invité à venir à lui pour avoir la vie et le repos de l'âme. As-tu vécu ça avec Jésus? As-tu connu ça? As-tu expérimenté ça? En plus, la Bible dit que l'Évangile, c'est une continuité. C'est à tous les jours qu'on expérimente ces choses-là. À tous les jours, moi, j'ai besoin de reconnaître, sais-tu quoi? Je suis têtu. Je suis toujours en train de dévier. Je suis toujours en train de vouloir faire mon affaire. Je suis toujours en train de m'égarer. Et je suis toujours en train de devenir esclave d'une passion quelconque. Et j'ai besoin de ce pardon-là. J'ai besoin de cette grâce-là. J'ai besoin de l'accueil du Père. Hein? On en a déjà parlé de ça. Quand on s'éloigne de Dieu, est-ce qu'on a tendance à aller vers lui? Non, hein? Parce qu'on a tendance à avoir honte. On a tendance à dire, « Oh non, Dieu, il ne sera pas fier de moi. » Fait qu'on s'éloigne de plus en plus. Mais la Bible dit que celui qui tourne les regards vers Dieu, il est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Wow! Pourquoi? Parce que le Père est là à bras ouverts. Il attend juste qu'on dise, « Père, j'ai péché, pardonne-moi. » Oui, je te pardonne sur la base du sacrifice de ton Sauveur qui est mort pour toi à la croix. Les bras sont grands ouverts. Les bras sont grands ouverts. Moi, j'ai eu tendance, merci le Seigneur, que le Seigneur me délivre, me restaure, me guérit de ça. J'ai eu tendance souvent à me tenir loin de Dieu parce que j'avais honte. Je ne me sentais pas à la hauteur. J'avais peur de m'approcher vraiment de Dieu. Quand ça allait bien, là, je m'approchais de Dieu. Mais quand je péchais, là, je me flagellais moi-même, là. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, ça se peut pas. Pardon, Seigneur. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, pardon, Seigneur. Ah, j'ai fait ça. Ah, Colin. Puis, sais-tu qu'à chaque fois que tu dis pardon, 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 Seigneur, c'est parce que tu l'as pas accueilli son pardon. C'est parce que tu n'es pas convaincu de son pardon. Y en a-tu ici qui font comme moi, qui demandent pardon plusieurs fois? Oui, hein? Demandent pardon plusieurs fois, là? Dieu, il est là. Pff, bon enfant. J'ai envoyé mon fils sur la croix mourir pour toi. Penses-tu pas que je veux pardonner? C'est comme si, en disant, « Ah, j'ai fait ça, Seigneur, pardon, pardon. » Puis là, on dit, « On recommence, pardon, pardon. » C'est comme si Dieu, il veut pas vraiment pardonner. Il faut que je le mérite. C'est pas toi qui l'as mérité, son pardon, c'est Jésus-Christ sur la croix. Amen. C'est Jésus qui l'a mérité, ton pardon. Amen. Puis c'est Dieu qui a voulu ça. Wow! C'est Dieu qui a voulu ça. Il l'a voulu. Il veut te pardonner. Il veut t'accueillir. Et sais-tu quoi, quand tu es là, là-dedans, là, comme moi, je l'étais beaucoup, je suis encore un peu, bien, je ne suis pas capable de t'accueillir, toi. Je ne suis pas capable de t'accueillir parce que je ne vis pas l'accueil de mon Papa céleste. Je ne le vis pas, l'accueil. Je ne le vis pas son pardon réellement. Je ne le vis pas sa grâce réellement. Fait que je ne suis pas capable de t'accueillir. Parce que je ne me laisse pas accueillir. L'Évangile, c'est à tous les jours. Je remercie vraiment le Seigneur de notre frère Étienne qui nous a enseigné là-dessus. C'est une grande bénédiction pour moi, en tout cas, puis je pense que pour tout le monde. Que l'Évangile, c'est à tous les jours. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? C'est ça. Toi, tu es là. Moi, je suis là. On n'est pas beau. Tous les deux, on n'est pas beau. Puis il y a un mur de séparation. Puis on n'est pas capable de s'aimer. On n'est pas capable de s'accueillir. Triste, hein? Puis on ne reflète pas, en plus, la personne de notre Papa céleste. Les choses paraissent belles, là. Ça paraît beau. Oh, ça paraît beau à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est ça qu'on vit, là. Comment peux-tu accueillir quelqu'un si tu ne vis pas l'accueil toi-même? C'est comme si un enfant passait dans la rue voir une famille heureuse à travers, tu sais, la fenêtre de loin. Puis, à un moment donné, cette famille-là part en vacances, il oublie de barrer une porte, puis l'enfant est attiré à la maison, puis il rentre dans la maison, puis il invite son ami à venir. Viens, 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 on va rentrer dans la maison. C'est le fun ici, mais la famille n'est pas là. Puis, il y a juste une coquille vide. Je ne sais pas pour toi, mais... Des fois, je me dis qu'on vit d'une coquille vide. Comment cet enfant-là peut-il accueillir son ami alors qu'il n'a pas reçu l'accueil parce que la famille n'est pas là? La famille n'est pas là pour l'accueillir. Il n'a rien compris, il n'a rien vécu de ça. Il va-tu être capable d'accueillir son ami? Non, c'est impossible. Mais, Jésus a dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. » Ce matin, c'est peut-être difficile pour toi d'accueillir les autres parce que tu as vécu beaucoup de rejet, de mépris, de jugement, de dédain. Jésus veut te guérir ce matin. Puis tantôt, là, quand on vous offre de prier, là, pourquoi pas venir? Pourquoi pas venir recevoir la guérison que Dieu veut t'offrir? Parce que c'est seulement qu'en recevant la guérison, que tu vas être capable d'accueillir l'accueil. tu vas pouvoir recevoir l'accueil de Dieu. Dieu est là, il t'offre son accueil, mais il y a une distance. Tu n'y crois pas vraiment. À cause de tes expériences passées, tu as été rejeté, méprisé, jugé, peut-être abandonné. C'est difficile. Ce matin, si tu as besoin, viens. Viens, on va prier pour toi. Dis à Jésus, « Jésus, est-ce que tu m'acceptes tel que je suis? » Attends la réponse. « Jésus, m'acceptes-tu tel que je suis? » Attends la réponse. « Peux-tu me montrer comment tu m'accueilles ce matin? » C'est dans ce processus-là, cette intimité-là avec Jésus, qu'on peut enfin vivre cet accueil-là qu'il veut nous offrir, y croire vraiment, grandir dans cette confiance que oui, Dieu m'accueille, oui, Dieu veut de moi, même quand j'ai raté mon coup, même quand j'ai fait des bêtises, j'ai péché, bien, il veut m'accueillir, il veut me recevoir, il m'invite. Il veut me prendre dans ses bras. Est-ce que tu te laisses prendre dans ses bras comme ça? Jésus veut. C'est beau, hein? Mais peut-être quand dans ta tête, tu dis, ça, c'est beau, là, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Ça se peut. Est-ce que tu peux te voir comme la brebis? Est-ce que tu vas te laisser prendre? Ça me fait tellement... La peine quand les petits-enfants, c'est arrivé souvent, malheureusement, là, surtout avec certains, vient donner une collade à grand-papa. Non! Partez à course dans l'autre direction. Oh! Viens donner un billet. Non! Oh! C'est comme si Jésus te disait, viens dans mes bras ce matin. Viens, je veux t'accueillir ce matin. Non! Non! Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que tu n'es pas aimable, hein? C'est parce que tu n'as jamais vécu ça, là. Parce que tu crois dans le fin fond de toi-même que tu n'es pas aimable. Donc, quand Jésus t'offre de t'aimer, c'est comme si ce n'est pas vrai, là. Ça ne se peut pas, là. Jésus dit, viens, je ne suis pas comme ton père, je ne suis pas comme ta mère. Qui t'ont méprisé, qui t'ont rejeté, qui t'ont blessé, qui t'ont dominé. Je ne suis pas comme ça. Viens, laisse-moi te prendre. Il faut expérimenter l'amour et l'accueil de Jésus pour pouvoir l'offrir à tes frères et sœurs. Deuxièmement, oups, je suis rendu loin, moi, là. T'as peur. Deuxièmement, il est où le 2? Oui, je pense que j'ai oublié de le mettre. Deuxièmement, il faut écarter sa satisfaction personnelle. Donc, pour offrir l'accueil dans la famille de Dieu, il faut l'avoir expérimenté. Mais deuxièmement, il faut écarter sa satisfaction personnelle. Donc, retournons dans Romains 15, versets 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction, que chacun de vous recherche la satisfaction de son prochain pour l'aider à grandir dans la foi, car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Ben, et là, il arrive au verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre chercher sa satisfaction puis accueillir? OK? On va le voir. Bien, le chapitre 15 arrive dans un contexte où ce que Paul traite de ce qui se passait à Corinth, surtout dans le verset 1 du chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit ici? Retournez dans le chapitre 14, verset 1, il dit « Accueillez ». Ah, OK. « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions ». Dans la version sommaire, accueillez, accueillez celui qui est mal affirmé dans la foi sans vous ériger en juge de ses opinions. OK, qu'est-ce qui se passait dans l'Église de Corinthe? On est parti du principe que l'idolâtrie est mal. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Dieu condamne l'idolâtrie. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Est-ce que c'est vrai, ce principe-là? Oui. C'est une loi éternelle. C'est un principe de Dieu. Il faut respecter ça. Bon, maintenant, dans l'application de cette vérité-là, de ne pas faire de l'idolâtrie, les gens voyaient les choses de deux façons, OK? Parce qu'ils vivaient dans des villes où il y avait des temples aux idoles. Puis dans ces temples-là, les gens apportaient de la viande, apportaient des sacrifices de nourriture à ces dieux-là, laissaient ça la nuit ou quoi que ce soit. Puis après ça, ils reprenaient cette nourriture-là, ils la vendaient sur le marché. OK? Et certains chrétiens disaient, « Oh boy, là, ça, moi, je ne touche pas à ça. Là. Tu ne me verras pas acheter cette viande-là, tu ne me verras pas manger cette viande-là. Pourquoi? Parce que c'est l'idolâtrie. Hein? » L'autre chrétien, il arrive dans le marché, il dit, « Voyons, une idole, c'est rien, ça, c'est même, ça n'existe même pas. Regarde, Dieu a créé ça, je paye, je le prends et je mange. » OK? Alors, il y a deux camps, là. Puis l'autre dit, « T'es en train de participer au culte des diables, des démons. T'es en train de participer à l'idolâtrie. » Non, l'autre, il dit non. Il dit, « C'est quoi que tu parles là? » Il dit, « Ça n'existe même pas, les idoles. C'est pas grave. C'est Dieu qui a créé cette nourriture-là. Ce que les êtres humains ont fait avec, je m'en fous. C'est de la bonne nourriture. Je rends grâce à Dieu et je le prends. » OK? C'est ça qui se passait. Qui a raison? Ben, quand vous lisez le passage, tu vas voir que finalement, hein, Paul il dit que c'est vrai ce que le deuxième dit. Le deuxième a raison. Mais le deuxième qui dit c'est de la nourriture que Dieu a créée, je suis capable de le prendre, puis je suis capable de rendre grâce. Ça, c'est le fort dans la foi. C'est le fort qui dit ça. OK? Mais, il dit, le fort ne doit pas juger ou mépriser le faible. Et le faible, s'il veut faire ça pour respecter le Seigneur, il peut le faire. C'est correct s'il veut faire ça. Pour respecter sa conscience, il peut faire ça. Mais lui, il ne doit pas juger l'autre qui fait le contraire. Okay? C'est ça qu'il dit. Puis, qu'est-ce qu'il dit au verset 1 de chapitre 14? Il dit, « Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. » Fait que là, on arrive au chapitre 15, et Paul, il revient, il dit, « Les forts, vous autres, là, vous ne devriez pas chercher ce qui vous plaît. Vous ne devriez pas rechercher votre propre satisfaction. » Bon. C'est quoi le lien entre ma propre satisfaction et le fait de ne pas être capable d'accueillir quelqu'un? Est-ce que vous voyez un lien? D'abord, pose-toi la question, pourquoi veux-tu que l'autre pense comme toi? Il dit, discutez pas des opinions, cherchez pas votre propre satisfaction. Pourquoi veux-tu discuter des opinions? Pourquoi veux-tu que l'autre pense comme toi? Pour avoir raison? Pour être affermi dans ta position? Et c'est quoi ça? C'est de chercher sa propre satisfaction. Ah! J'ai raison. Regarde, il pense comme moi, là. Lui, il pense comme moi. Et l'autre... Un nouveau arrive, « Hey, toi, qu'est-ce que tu penses, toi, des viandes offertes aux idoles qu'on peut manger, qu'on peut acheter? Toi, qu'est-ce que tu penses, hein? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Ah, oh, ben moi, je pense que c'est bien correct. Ah, c'est bon, ça, oui. Hey, j'ai raison. » On cherche notre propre satisfaction. Paul dit, « Jésus n'a pas fait ça, là. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? T'es-tu tourné vers les besoins de l'autre? » T'es-tu ouvert à accueillir ton frère? Non, tu penses à qui? Tu penses à toi. Un jour, on était en vacances en Virginie, la famille. Dimanche matin, je dis à Lorraine, j'ai vu une église évangélique en passant, en rentrant, là. On va aller là dimanche. C'est certains qui connaissent l'histoire. Fait que là, dimanche matin, on voit les enfants, on embarque, on s'en va à l'église. Hey, on est content, on arrive. Le pasteur, il se tient à la porte. Bonjour, bonjour. Et on est là en visite, tout ça, OK. OK, c'est quoi ta position théologique sur l'eschatologie? T'es-tu pré-mille, pré-tribe, peut-être? Quoi? Moi, j'ai donné ma position. Ah, OK. OK. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Même si j'avais la même position que lui, je me suis pas senti accueilli, là. Pourquoi? J'étais mis sous les projecteurs. Les projecteurs étaient braqués sur moi. Puis, j'étais quasiment sur le banc des accusés. Penses-tu comme moi? Penses-tu comme moi? Je vais t'accueillir si tu penses comme moi. Si tu as la bonne réponse. Mais sinon, ça veut dire quoi? Tu ne seras pas accueilli. Voyez-vous? Voyez-vous le rapport? En chercher sa propre satisfaction dans le sens de discuter des opinions. On ne parle pas ici des fondements théologiques de qui est Dieu, qui est Jésus, comment on arrive au salut, etc. Tu peux avoir toutes ces choses-là et avoir différentes positions théologiques. Et dans le chapitre 14 et 15, Paul dit, tu peux respecter le principe de ne pas adorer les idoles et tu peux avoir une opinion différente sur les viandes qui sont offertes sur le marché, qui ont été offertes aux idoles qui sont vendues maintenant sur le marché. L'application de la vérité, il y a des nuances, il y a des positions, il y a des différences. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est que tu es en train de chercher ta propre satisfaction. Et qu'est-ce que ça fait? Ça repousse les gens. Oh! Oh! Vous savez, ici dans notre église, on accepte des gens qui tiennent une position différente sur l'eschatologie. On n'en fera pas un débat. On n'en fera pas une condition pour devenir membre. On accepte des gens qui ont des positions différentes sur comment la souveraineté de Dieu s'applique. On croit la souveraineté de Dieu, mais comment elle s'applique? On accepte que tu aies une position telle ou une position telle. On accepte même que tu aies une position différente sur les dons, en notant que tu ne commences pas à faire campagne, ce ne serait pas long, à faire campagne pour ta position. Là, on va dire un instant. On va dire un instant. Pourquoi tu fais ça? Tu peux avoir ta position. Pas de problème. On t'accueille. On peut en discuter, oui. Puis on peut s'édifier mutuellement, on peut se challenger mutuellement. Mais si tu te mets en campagne pour ta propre satisfaction, puis on voit que ça cause des camps, là, tu es en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Tu es allé à l'encontre de la parole de Dieu. Fait qu'il faut faire attention. Paul est dit, nous ne devons pas chercher notre propre satisfaction, mais plutôt le bien en vue de quoi? Verset 2? Verset 3, l'édification. Tu es tourné vers qui? Tu es tourné vers toi ou tu es tourné vers le bien, la prospérité spirituelle de ton frère, de ta sœur? Oui, il y avait une question, Étienne? Eschatologie, c'est l'étude de ce qui va arriver dans les derniers temps, lorsque Jésus revient, l'avenir. Donc, la Bible en parle de ce qui va se passer dans l'avenir, mais il y a différentes compréhensions de ce qui va se passer. Il y a des choses de base qui sont communes à tout le monde. Jésus revient, tout le monde est d'accord? OK, tout le monde est d'accord? On a étudié ça là, il y a un an ou deux. Puis, il y a des choses qui sont claires, Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, puis il y a des nuances là-dedans. Non, je ne parlais pas de ça ce matin. C'est trop compliqué. Ce n'est pas le sujet. Mais si tu veux, tu peux aller écouter les enseignements qu'on a faits il y a 2 ans. Il y avait quelqu'un d'autre ici? Oui. 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 Oui, c'est vrai. Je vais répéter ce que Martial dit, c'est très important. Quand Adam et Ève se sont détournés de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est devenus nos propres dieux. Puis on s'adore soi-même, puis le risque, c'est aussi qu'on adore notre propre pensée, puis on veut que les autres adhèrent à notre pensée. On s'érige, hein? Oui, c'est ça, c'est vrai. Nous faisons souvent de nos opinions ou positions théologiques des enjeux dans nos relations avec les frères et sœurs, pas vrai? Nous recherchons notre propre satisfaction en repérant ceux qui pensent comme nous et nous divisons le corps de Christ. L'accueil du Christ est vite balayé aux oubliettes et nous faisons déshonneur à notre Père céleste. L'autre façon de chercher sa propre satisfaction, ça ressemble un peu à ça, mais c'est de se tenir avec les chrétiens. Dans le passé, il y a plusieurs années, on faisait des déjeuners témoignages, puis c'est arrivé plusieurs fois, il y avait des invités. Puis là, je m'apercevais, là, dans le restaurant ou peu importe où on faisait ça, une gang de chrétiens ici qui se parlaient entre eux autres, puis des invités sont là-bas. Franchement, frères et sœurs, pas fort. C'est pas fort. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est plus facile d'être avec les chrétiens, avec nos amis. On parle. On oublie complètement la raison pourquoi on est là. On ne s'en va pas vers ceux-là que le Seigneur Jésus veut accueillir. Ça, c'est chercher sa propre satisfaction. Oui, mais c'est exigeant. C'est difficile d'être accueillant. Oui. C'est épuisant, c'est inconfortable, ça me sort de ma zone de confort. Effectivement. Effectivement. Alors, ça nous amène à notre troisième point. Espérer dans le soutien et le réconfort de ton Père céleste. Fait que ce qu'on a vu rapidement, l'accueil, impossible si on ne l'expérimente pas. Hein? Il faut l'expérimenter. Deuxièmement, il faut écarter notre propre satisfaction. Écarter ça, chercher le bien, l'édification de l'autre. Et troisièmement, bien oui, c'est difficile, mais on peut espérer dans le soutien et le réconfort. Regardez encore dans Romains 15. Regardez ce que Paul va dire. Verset 4. « Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous, quoi? L'espérance. » Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ, ainsi d'un même cœur, d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Donc, c'est surnaturel d'accueillir des gens comme Jésus. Essaye pas de faire ça par tes propres forces, mais tout en t'inspirant du modèle de Jésus, il faut puiser ta patience, ton réconfort dans ton Père céleste. Voilà le secret. Je n'ai pas la patience d'écouter cette personne-là qui me raconte toujours ces mêmes histoires. Parfait. Parfait. Demande à Dieu. Demande-le à Dieu. Il est la source, qu'est-ce qu'il dit ici? De tout, de toute patience et de toute consolation. C'est dur, c'est épuisant passer du temps avec les gens, pas comme moi. C'est vrai. Ça me décourage juste à y penser. Parfait. Dieu est la source de quoi? Regardez pas moi, regardez dans le passage. Qu'est-ce qu'il dit? De toute Verset 4. Verset 5. La source de toute patience et de tout réconfort. De réconfort. On a besoin d'être réconforté par notre Père, parce que des fois, les gens nous font vivre des drôles d'émotions. Pas vrai? Si on ne cherche pas notre patience et notre réconfort en Dieu, on ne sera pas capable d'accueillir comme Jésus. Puis la Bible, il dit ici, Paul, il dit que les Écritures, la Bible est une source, aussi au verset 4, de patience et de consolation de la Bible. Regardons l'exemple de Moïse qui était à la tête de 3 millions de gens au cou raide, indocile et têtu. Hey boy! Il était un homme comme nous, mais la Bible dit que c'était l'homme le plus patient et le plus doux de la terre. Ça se peut pas. C'est impossible sans l'Esprit de Dieu. Moïse passait son temps en présence de Dieu. Il était accueilli par Dieu. Il était consolé par Dieu. Il était fourni par Dieu de patience. Et là, il était capable de faire face à ce peuple-là. Il était capable d'être patient et doux. Regardons à Jésus qui a été si accueillant, patient avec ses disciples et toute la multitude de gens divers qu'il a accueillis avec tant de grâce et bonté. Et finalement, regardons à notre avenir glorieux. Gardons nos yeux sur l'espérance à venir que Dieu nous remplira de joie par la puissance du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que c'est dans le même passage au verset 13 qu'on a notre verset thème sur la série de l'avenir? Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance, c'est important. Ce que je vis maintenant ici, dans ma famille, les relations, c'est pas facile. Ben, c'est pour un temps. Je garde les yeux sur l'avenir. Ressusciter avec Christ, régner avec Christ, ressembler à Christ. Hein? Les trois R qu'on a vus dans cette série-là. N'oublie pas qu'un jour, tu entendras prononcer ces paroles par Jésus. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Donc, l'accueil, les relations, être capable d'accueillir, c'est pas naturel, c'est surnaturel. Mais on a une source éternelle de soutien, de réconfort auprès du Père. Puisse ta patience, ton réconfort dans ton Père, les Écritures et l'avenir glorieux. Ouais, j'avais mélangé le 2 et le 3, désolé là. Bon, pratico-pratique. Comment se manifeste l'accueil? Permettez-moi de vous donner quelques exemples pratiques pour qu'on réfléchisse ensemble et qu'on demande au Seigneur de faire de nous des gens accueillants. Va vers les gens. Attends pas qu'ils viennent vers toi. Intéresse-toi à eux, à ce qu'ils vivent de bon ou de mauvais. Écoute ce qu'une personne veut te dire sans donner ton avis. Oh! Respecte ses convictions sans te sentir obligé de les corriger. Prie pour la personne qui vit une difficulté sans donner des conseils à moins qu'elle en demande. Pose-toi la question, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne-là se sente accueillie, bienvenue chez moi et dans l'Église? Demande au Seigneur Jésus. Vous savez, on est tous pareils. On regarde aux obstacles, on dit « Ah non, moi, je ne suis pas capable de faire ça », puis on continue à vivre comme on vivait. Non, demande au Seigneur, « Seigneur, j'ai telle contrainte, je n'ai pas de budget, j'ai petit appartement peut-être, pas grand-chose, mais comment je peux être une personne plus accueillante, Seigneur? Et de façon pratique, montre-moi qu'est-ce que je peux faire? » invite la personne à aller marcher. Comme j'ai dit, là, Jésus, il n'y avait même pas chez eux. Et pourtant, c'était la personne la plus accueillante sur la terre, parce que les gens se sentaient chez eux avec lui. Si tu invites quelqu'un à aller marcher ensemble, là, la personne peut se sentir accueillie par toi. Va au café, prends un café au resto ensemble. Ou invite la personne à prendre un petit dessert chez toi. Ça n'a pas besoin d'être un repas 5 services. Ouvre-toi à te laisser connaître comme tu es. Pas de cachette. Accueille la personne premièrement dans ton cœur, pas juste dans ta maison ou dans l'église. Voilà quelques façons de devenir une personne plus accueillante. Et puis, il y en a sûrement d'autres. Puis, posons-nous la question en tant qu'Église, à quoi ressemblerait vraiment l'Église de Saint-Félicien si on devenait accueillant comme Jésus? Fait que, frères et sœurs, c'est une prière qu'on avait faite il y a une couple de mois ensemble à la suite de du premier enseignement sur l'accueil. Puis, je vous invite à le refaire avec moi. Père, tu as été tellement bon et gracieux envers moi. Jésus, mon Sauveur, m'a aimé alors que je n'étais pas aimable. Il m'a libéré de l'esclavage du péché et de la mort. Tu m'as accueilli et adopté dans ta famille par amour et je suis ton enfant. C'est l'Évangile. Je m'engage ce matin avec mes frères et sœurs à devenir une personne accueillante comme toi, Papa. Je te demande de me guérir et de restaurer tout ce qui peut m'empêcher de le devenir. De tout cœur, je désire aimer comme j'ai été aimé, accueillir comme j'ai été accueilli. Je veux être pour les autres ce que Jésus a été pour moi. Je désire faire partie d'une famille qui glorifie ton nom par l'accueil qui se vit entre ses membres et envers ceux qui n'en font pas encore partie. Amen. Richard?